Vivre FM, la vie des associations, podcast.
Dans la vie des associations, Vivre FM tente aujourd'hui son micro en direction de l'association Action Handicap France, représentée par sa directrice, Stéphanie Xeuxet. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Benjamin.
Et par Laurent Monestier. Alors Laurent, j'ai un peu mangé votre statut. Bonjour Laurent.
Bonjour Benjamin.
Merci d'être des nôtres. Je sais que vous avez fait des pieds et des mains, j'allais dire, hein, parce que vous aviez des problèmes avec la table. Ça y est, c'est arrangé.
Ça va mieux.
On vous entend mieux, on vous entend bien en tous les cas, et puis on espère bien qu'on vous entendra bien jusqu'à 11h. Quel est votre rôle au sein de l'association Action Handicap France ?
Alors moi, pour ma part, je suis intervenant donc sur tout ce qui est sensibilisation et formation pour l'accueil des personnes handicapées.
C'est ça. Alors il y a plein de choses à dire quant à la formation, quant à l'accueil justement du public. Hein. Les établissements qui reçoivent du public sont souvent mal pourvus, on va dire, pour accueillir les personnes handicapées. Et c'est ce dont, en particulier, nous allons parler avec Stéphanie et avec Laurent. Stéphanie, en quelques phrases, qu'est-ce que c'est que Action Handicap France ?
Alors Action Handicap France, c'est un collectif de professionnels du handicap et de l'accessibilité. C'est une équipe de 22 spécialistes, la moitié en situation de handicap. Mmh. On s'était aperçu, parce que l'histoire a commencé il y a 5 ans, qu'il n'y avait pas d'association pour tous les types de handicap. Souvent, on était obligé un peu de s'adresser à différentes...
À plein d'associations.
Associations différentes.
Oui, ce qui n'est pas si simple.
Voilà, donc on s'est dit, on va faire un peu comme à la MDPH, un guichet unique. Et ça permettra donc aux collectivités locales, aux entreprises, voilà, à toutes les personnes qui le souhaitent, de pouvoir former, mais pour tous les types de handicap.
Alors, pouvoir former, donc on est bien d'accord, pouvoir former qui les par exemple les RH, les DRH, les gens qui accueillent du public handicapé, pouvoir former qui précisément?
Oui, alors le gros de notre travail, c'est surtout sur des sensibilisations qui durent 2-3 heures pour des modules spécifiques, donc ça peut être dans les musées, dans les mairies, et puis on a une partie aussi qui est concernant la formation, donc là c'est plutôt démystifier le handicap au travail, et là on intervient en entreprise.
C'est-à-dire que c'est au-delà de la sensibilisation. La sensibilisation, en 2-3 heures, on peut penser qu'effectivement on arrive à mettre le doigt sur les problèmes que peuvent rencontrer les personnes handicapées, mais quant à la formation, c'est un petit peu plus complexe et forcément plus complet.
Voilà, et puis ça va plutôt être sur une journée ou deux jours.
Ça suffit.
Oui, en formation pour sensibiliser au handicap, ça suffit, mais c'est vraiment très intensif et ça va plutôt s'adresser. Nous, on travaille beaucoup pour la culture, donc des modules pour les agents d'accueil et de billetterie dans les musées notamment.
Quand on parle de formation, on parle effectivement de formation, bah, par exemple, aux boucles magnétiques quand on accueille des personnes sourdes, par exemple.
Oui, alors ça fait partie de nos modules. On a par exemple pour le module handicap auditif une interprète en langue des signes qui va à la fois sensibiliser sur la surdité et la malentendance avec un atelier en langue des signes, mais aussi l'explication des boucles magnétiques avec notamment Paul Mousny d'Accessence. Donc vraiment des pros qui viennent expliquer et c'est vraiment pratico-pratique, donc les gens comprennent très vite de quoi on parle.
Alors il n'y a pas que des formations aux boucles magnétiques, hein, j'imagine, quand on reçoit du public, parce qu'il n'y a pas que des personnes sourdes, il y a des personnes aveugles. Dans ces cas-là, il y a une formation particulière, là encore. C'est quoi? Ça tient de la psychologie? Ça tient du pratique? Qu'est-ce qu'on dit dans ces formations? Comment on forme justement ces personnes qui vont accueillir des personnes handicapées?
Alors ça va vraiment être en effet sur le comportement, l'aspect humain, les échanges aussi avec les personnes qui sont elles-mêmes en situation. Donc ça peut être des personnes aveugles, malvoyantes, handicap moteur. Et on va vraiment être le plus large possible, donner vraiment des pistes et des astuces pour être et surtout de bon sens. Voilà.
Vous êtes orienté également sur le handicap mental, parce que là il y a encore beaucoup de choses à faire. Effectivement, il y en a beaucoup à faire en direction des personnes sourdes, des personnes handicapées sensorielles, hein, sourdes, aveugles, mais on parle moins du handicap mental, comme si c'était quelque chose de plus difficile encore à faire que le public touché par le handicap mental puisse, comment dirais-je, avoir accès à la culture, avoir accès en général aux autres.
Tout à fait. Dans handicap mental et psychique, donc nous, on a un module où on va faire vraiment les différences entre ces deux types de handicap. Souvent, il y a un amalgame qui est fait et les gens ont vraiment très peur. Donc, on va faire intervenir notamment Nora Ladra qui est spécialiste, qui a une société qui s'appelle Job Coaching et qui va donner les pistes vraiment pour aborder ce type de handicap. On va aussi montrer des vidéos, on va donner des supports pédagogiques. On va être très très large.
Il y a une formation quant au langage facile à comprendre.
Facile à lire et à comprendre. Le fameux FALC, oui. Bien sûr. Et on va conseiller aussi, notamment pour les sites internet, pour faciliter les chapeaux sur les onglets des sites internet et la compréhension, bien sûr. Notamment, je pense à des discours, par exemple, qui pourraient être facilités et simplifiés.
Mais alors là, on n'est pas arrivé, parce que là, il va falloir aussi former les hommes politiques. Et ils sont assez facilement déformés par la politique, de là à dire qu'ils sont en capacité de se remettre en question et justement d'arriver à parler d'un langage, un langage qui soit compréhensible par tout le monde, y compris par ceux qui ont le plus de difficultés à le comprendre, ce langage justement. D'ailleurs, on ne parle pas de langue souvent, on parle de langage, hein, une sorte de jargon, une sorte de...
Hein. Exactement, et puis surtout, bon, comme vous le dites très bien, il faut simplifier les choses. Donc ça dépend aussi, par exemple, des stagiaires qu'on va avoir. On peut avoir des agents d'accueil, mais bon, on peut avoir affaire à des DRH. Donc voilà, peut-être que la dialectique va être un petit peu différente, mais le tout, c'est la bonne compréhension et la sensibilisation et la formation pour faire avancer les choses.
Alors, votre actualité, ce sont les musées en ce moment. Vous êtes, parce qu'en 5 ans, vous avez déjà, j'allais dire, écrémé un peu les difficultés. Vous avez, j'imagine, en 5 ans, vous avez avancé.
Alors, on a bien avancé puisqu'on a fêté nos 5 ans il y a un mois de ça. Donc,
joli.
Une très très belle, équipe, des gens, moi je trouve formidables, qui travaillent très très bien. Et 4900 personnes en 5 ans formées et sensibilisées. Donc, je pense qu'on a bien travaillé.
Ouais. Et alors là, en ce moment, votre actualité va plutôt vers les musées.
Oui, puisqu'on a eu donc un chantier qui a commencé donc il y a 15 jours, qui va se poursuivre jusqu'au mois de juillet pour former 80 agents d'accueil et billetterie pour les 14 musées de la ville de Paris. Donc ça concerne Petit Palais, Carnavalet, enfin voilà, les 14 musées. Donc les personnes viennent donc en formation et repartent avec le bon comportement adopté.
Ça veut dire que vous formez les agents d'accueil, mais moi je veux dire c'est bien de former les agents d'accueil, mais si le musée lui-même, pardonnez-moi, n'est pas accessible, comment on fait ?
Alors pour l'instant, il y a toute une politique qui est mise en place et les choses avancent, puisque comme vous le savez, Benjamin, au niveau de la loi, il y a un calendrier d'adap, on en parlera avec Laurent après,
oui.
3-6-9 ans, donc ça laisse un petit peu de marge. Mais
c'est quoi 3-6-9 ans? Ça veut dire qu'il y a certaines entités qui peuvent être accessibles très rapidement et d'autres pour lesquelles on va pouvoir attendre, on va pouvoir donner des délais plus importants, c'est ça?
Oui, parce qu'il y avait eu 10 ans pour faire les diagnostics, tout le monde s'est pas mis aux normes. Donc,
ça, c'est français, hein.
Exactement.
On n'est pas très prévoyant, voire même on a tendance à être des retardataires.
Oui, hein. Et c'est dommage parce que c'est les personnes en situation de handicap qui en pâtissent. Donc aujourd'hui, il faut rattraper ce retard et on est
et
là
bon,
pour ça.
On va rattraper ça, on va pas se mettre en retard nous, hein. On va s'offrir une pause musicale et puis revenir juste après pour continuer à parler de vos actions. Vous qui représentez l'association Action Handicap France sur l'île.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Aujourd'hui, dans la vie des associations sur Vivre FM, place à l'association Action Handicap France, représentée par Stéphanie Xuxet, sa directrice, et Laurent Monestier. Rebonjour Laurent.
Bonjour Benjamin.
Laurent, vous êtes intervenant au sein de Action Handicap France, ça fait 3 ans.
Ça fait 3 ans maintenant, exactement.
Ouais. Intervenant parce que vous-même, vous êtes en situation de handicap.
Voilà, suite à un accident de la route en 2002, donc au quotidien, je me déplace en fauteuil roulant.
Mm-hmm. Et c'est à ce sujet, j'allais dire, que vous avez décidé, c'est pourquoi vous avez décidé de rejoindre Action Handicap France, justement pour faire savoir que les personnes en fauteuil avaient des besoins et qu'elles étaient peut-être un petit peu laissées pour compte, pas forcément partout, mais qu'il y avait encore du boulot à faire.
Ah oui, du boulot il y en a, et c'est vrai qu'il y a 3 ans, j'ai décidé de rejoindre Action Handicap France parce que leur travail est quand même formidable. On a besoin, il y a un grand chantier devant nous dans le secteur du handicap. Et voilà pourquoi j'ai rejoint l'équipe.
Alors vous avez rejoint, pardonnez-moi, vous avez rejoint l'équipe non pas parce que vous, enfin pas uniquement parce que vous êtes une personne handicapée, parce que c'est plutôt les compétences qui comptent. Hein. Je connais Stéphanie Xoxay depuis un moment, et si vous étiez incompétent, vous n'auriez pas franchi les portes de son association.
C'est
donc
sûr.
À quel titre vous intervenez? Que faites-vous très précisément?
Alors j'interviens sur toute la partie qui concerne l'accueil pour les personnes à handicap moteur.
Vous intervenez donc dans des structures précises. Vous intervenez à quel titre? Au titre de conseil? Comment ça fonctionne concrètement? Qu'est-ce que vous faites?
Alors pour l'association, donc j'interviens en tant que formateur. Donc je dispose des sensibilisations et des formations pour l'accueil des personnes à handicap moteur, comme on l'a fait pour la Fondation Vuitton et beaucoup d'autres établissements depuis 3 ans. Et puis donc j'ai créé ma société donc il y a 1 an, la société Accessible, où là je propose du conseil et des études pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public.
Alors quand vous agissez au titre de conseil, vous formez les personnes qui accueillent, vous ne vous préoccupez pas du cadre bâti, ou au contraire vous agissez auprès de ceux qui construisent?
Alors, le but, c'est de travailler en concertation. C'est ce que je fais tous les jours avec des architectes. Et effectivement, on est passé par une phase de formation, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai qu'à l'école, ils n'ont pas forcément les compétences, pour la plupart, sur l'expertise donc de mise en accessibilité.
C'est assez étonnant, ça, quand même, parce que ça voudrait dire que l'apprentissage est incomplet, parce que aujourd'hui, on sait, si on l'a ignoré pendant longtemps, aujourd'hui, on sait que le handicap existe, le handicap moteur, on sait les difficultés que peuvent rencontrer des personnes en fauteuil roulant, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors après, il y a quand même du bon sens à mettre en place, c'est ce que nous, on apporte de notre côté. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait, comme le disent les statistiques, il y a à peu près que 10% des architectes qui ont été formés à cette expertise.
Alors, vous le savez, hein, au début, on disait que tout devait être accessible en 2015. On en est bien loin, puisqu'on est loin de 2015, et que tout n'est toujours pas accessible, et qu'on se demande si un jour, tout le sera complètement. Moi, je répondrais bien par la négative, mais on va me traiter de pessimiste.
Il faut rester positif, oui.
Faut rester positif. Je vous entendais parler tout à l'heure de calendrier de 3, 6 et 9 ans. Ça a à voir, ça, justement, avec la mise en accessibilité, pardon, de tous les établissements?
Oui, alors la loi de 2005 était censée mettre à plat, j'ai envie de dire, entre guillemets, la France en 2015.
Ah bah d'ailleurs, la France est à plat. Hein. Ça y est, c'est fait. Hein.
Donc oui, effectivement, on a pris beaucoup de retard et l'arrêté du 8 décembre donc oblige tous les établissements recevant du public à mettre en place un dossier ADAP. Donc c'est un dossier qui programme les travaux sur 3, 6, voire 9 ans,
d'accord,
selon la taille de l'établissement.
Ah, selon la taille, voilà, j'allais justement demander si c'était au sujet du genre d'établissement, du type d'établissement. Non, c'est en rapport avec la taille.
Voilà, c'est la catégorie qui va déterminer le temps de mise en place des travaux.
D'accord, 3, 6, 9 ans.
Exactement.
Moi aussi j'entends souvent dire, et par là même, ça pourrait presque faire que les personnes handicapées, et j'allais dire, aient presque honte, parce qu'on entend, oui mais vous savez, c'est très contraignant, adapter certains établissements, adapter certains commerces, c'est contraignant, ça veut dire en gros, vous en demandez beaucoup.
Oui, alors tous les jours, moi je suis en rapport avec des commerçants, des restaurateurs, et la première chose qu'on me dit, c'est « mais moi j'ai pas de personne handicapée, j'en reçois pas, il y en a pas,
ouais.
Ou pourquoi je le ferais pour une personne, je peux l'aider, j'ai juste à le porter. »
C'est terrible, hein. Ah oui, j'entends le restaurateur ou le commerçant qui dit « moi je peux le porter », sauf que si par malheur il avait 3 ou 4 personnes même dans la journée, et il finirait par en avoir vite plein le dos.
Oui, alors après c'est vrai qu'il y a quand même des possibilités de dérogation, c'est vrai qu'il y a des infrastructures qui ne permettent pas de mettre en place des sanitaires handicapés dans tous les établissements.
Sans doute.
Ils ont quand même la possibilité de déroger, mais on les accompagne aussi dans ce sens-là, même si je suis moi-même en fauteuil roulant.
Mais bon. Oui. Alors ça veut dire quoi, accompagner justement dans ce sens-là? Ça veut dire faire en sorte qu'elles puissent obtenir des dérogations parce que vraiment là vous sentez que c'est pas possible, ou au contraire faire en sorte, les inciter à faire qu'elles fassent au mieux dans l'intérêt aussi des personnes handicapées?
Mon but c'est de faire avancer la cause. Alors à partir du moment où techniquement c'est réalisable, On va tout faire pour aménager des sanitaires sur les trois futures années.
Maintenant,
techniquement ce n'est pas possible, c'est les architectes qui donc mettent le doigt dessus et puis donc à partir de là on déroge.
Argument. Alors, mais c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue ça fait mal parce que vous le disiez tout à l'heure et on le disait tout à l'heure, certains architectes ne sont pas eux-mêmes formés.
C'est pour ça que je travaille en concertation avec les architectes. Donc on a vraiment un point de vue en commun sur chaque dossier.
Ouais. Là-dessus, d'accord. D'ailleurs travaillé avec le musée du Louvre. On a pas mal travaillé donc l'année dernière et cette année à des réunions qualité d'usage pour chaque type de handicap, une personne en situation de handicap et notamment Laurent qui a quand même pas mal sensibilisé. On aurait même pu faire des mises en situation hein, pour faire comprendre peut-être de façon plus optimale les choses. Mais ces réunions qualité d'usage ont permis d'accélérer le processus d'accessibilité au niveau du musée du Louvre. Quand on arrive en réunion et qu'on repart et que les gens ont pris une vingtaine de pages de notes, on se dit qu'on a gagné quand même.
Oui, alors après, il faut voir ce que deviennent les notes, hein. Et parce qu'il y a aussi, on fait valoir, j'imagine, le coût. Parce que, est-ce que, pour le coup, l'État aide beaucoup quant à l'accessibilité? Est-ce qu'il y a un reste à devoir? Est-ce qu'il y a de grosses charges, malgré tout? Et pour les établissements publics, alors là, bon, ça revient à l'État et, je sais pas, j'imagine qu'il y aura des négociations. Mais si, par exemple, il s'agit de restaurants, s'il s'agit de commerce, comment est-ce qu'on peut s'en sortir quand on est un petit commerçant, un petit restaurateur, et que là on comprend que finalement le petit commerçant ou le petit restaurateur en question traîne un petit peu des pieds, j'allais dire, pour rendre son commerce accessible, parce qu'il sait que ça va lui coûter bonbon par exemple.
Voilà, ça va lui coûter bonbon et ça lui coûte bonbon, donc c'est vrai que tout est à sa charge. Aujourd'hui il n'y a pas forcément d'aide de l'État ou très peu. Voilà, et la conjoncture économique fait que c'est assez compliqué de mettre en avant
l'accessibilité. Est-ce que ça veut pas dire qu'en dépit justement de vos conseils avisés, ô combien, et professionnels, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de devenir des porte-voix et d'aller voir les politiques et de leur expliquer un petit peu les difficultés que peuvent rencontrer les uns les autres?
Ah, c'est vrai que tout part de la politique, hein, et ils ont un rôle essentiel pour faire avancer tout un tas de projets, et oui.
Et vous n'excluez pas d'aller les rencontrer? C'est déjà fait, ça?
Mais nous irons ensemble, Benjamin.
Eh bien, très bien. Eh bien, on ira les voir, on ira leur secouer un petit peu les
plus. Grand plaisir.
Absolument. Très bien. En attendant d'aller secouer les hommes politiques, parce qu'il y a quand même du boulot, il y en a aussi à faire ici, mais on va le faire en musique. Une pause musicale sur Vivre FM, et on vient juste après pour continuer à parler avec vous des actions de l'association Action Handicap France sur Vivre FM.
La vie des associations, jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Action Handicap France est au micro de Vivre FM dans la vie des associations aujourd'hui, représentée par Laurent Monestier et Stéphanie Xeuxet. Stéphanie, on retourne au musée avec vous parce que on a parlé justement de l'accueil de ces agents de musée que vous organisez, mais c'est pas tout.
Non, c'est pas tout. On fait aussi des choses, notamment pour le musée du Louvre et notamment pour la petite galerie qui a mis en place, donc en téléchargement sur des smartphones, 14 vidéos en langue des signes sous-titrées avec donc Isabelle Voiseux qui travaille à l'œil et la main, accompagnée d'Élodie Grand-Mère qui interprète. Et donc on a pu travailler sur ce projet avec le musée du Louvre et ça permet donc aux personnes signantes de pouvoir accéder à 14 œuvres différentes à la petite galerie.
Depuis combien de temps elles sont accessibles, ces vidéos?
Depuis le mois de décembre.
D'accord. Vous avez eu des retours, justement, les gens qui vous disent « Ah, enfin, quand même, on comprend mieux, on arrive à, grâce à vous, justement, on arrive à accéder à la culture avec un grand C ».
Oui, on essaye vraiment d'avancer et notamment, on pense qu'il est très important de communiquer efficacement. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait des sites internet accessibles avec des vidéos en langue des signes, de l'audiodescription, des outils d'accessibilité sur les sites qui permettent à tout le monde...
C'est ça, vous faites plein de choses, vraiment, vous êtes, j'allais dire, sur tous les chantiers à la fois. Je suppose que vous n'avez pas trop de 22 spécialistes avec vous, hein?
Oui, c'est ça. Alors, donc, l'équipe tourne. Tout le monde travaille pas tous les jours, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir des personnes, et notamment quand on a des questions d'usagers, parce qu'on répond gracieusement donc à Action Handicap France.
D'abord parce que vous êtes gracieuse vous-même, hein. Donc, mais vous répondez gracieusement, ça veut dire qu'effectivement, il suffit de vous appeler ou de vous envoyer un mail, peut-être par exemple, pour que.
On est un peu une plateforme d'information, et donc si on a la réponse, et en général avec 22 spécialistes, c'est le cas, on peut répondre. Voilà, gratuitement, ou renvoyer vers une association qui peut répondre au mieux.
De quel ordre sont les questions? Est-ce qu'il y a des questions prioritaires, majoritaires qui vous sont posées encore aujourd'hui ou pas, ou ça va vraiment, j'allais dire, dans tous les sens?
Alors ça vient de toute la France et c'est assez large, hein. Ça peut aller de je souhaiterais une place adaptée en bas de chez moi, on va expliquer que bon, ça se fait pas comme ça, hein. Faut passer par la mairie et tout ça, mais ma fille est autiste, je souhaite un établissement spécialisé, voilà.
Ça veut dire que vous êtes presque une succursale de la MDPH, enfin moins le fait qu'effectivement vous ne faites pas remplir les papiers, mais vous avez presque les mêmes réponses. Alors, faut peut-être pas dire ça parce que soudain vous allez crouler sous les demandes les plus importantes et sur les demandes les plus nombreuses. Mais c'est un peu ça quand même.
C'est ça, parce que en même temps j'ai la chance de siéger à la CDAPH de la MDPH de Paris pour la CFDT Action Handicap France. Donc je suis vraiment au cœur de ce sujet-là. Donc en tant que partenaire, on peut avoir accès à des réponses peut-être plus rapidement aussi avec la MDPH, et ça permet vraiment de faire avancer les choses rapidement.
Alors vous faites en sorte également d'adapter des sites internet?
Oui, des sites internet, notamment on est sur le blog de la CFDT avec le groupe Ressources et Handicap actuellement, qui souhaite créer donc un site internet spécialiste sur la question.
Ça c'est pas mal, c'est une belle idée parce qu'effectivement la culture ça compte, mais aussi pouvoir se défendre, pouvoir contacter qui un parti politique, qui un syndicat, c'est bien ça.
Oui, les organismes syndicaux, mais on travaille aussi avec les collectivités locales, on a notamment sensibiliser au handicap invisible l'année dernière 2000 agents de la mairie de Bordeaux. Donc voilà, on fait pas seulement que des musées, on fait aussi toute structure qui souhaite devenir optimale sur l'accessibilité.
Comment on fonctionne quand on est à Paris? Vous êtes plutôt à Paris, en tous les cas le siège de l'association, l'adresse administrative de l'association est à Paris. Et comment on fait justement pour se disperser, pour faire en sorte de faire entendre sa voix et de faire entendre ses conseils par toute la France? Ça voyage, comme vous disiez, les 22 professionnels ne travaillent pas tous les jours, mais quand même parfois ils ont l'occasion de partir, de quitter Paris.
Oui, on se déplace, on a eu la chance aussi de travailler pas mal pour Thalès au niveau des sites, il y a 52 sites en France, donc ça va de Châtellerault à Pessac, voilà, on se déplace beaucoup avec une partie de l'équipe, mais aussi on a la chance d'avoir des partenariats avec d'autres structures qui permettent aussi de contacter et d'avoir des points en province.
Qui sont bien en prise avec le handicap et qui connaissent bien.
Exactement.
Alors l'accueil des musées, là, c'est votre actualité, c'est terminé, c'est en voie de comment...
Il nous reste encore quatre sessions à faire jusqu'au mois de juillet. Et puis, on a d'autres projets aussi. On a eu la chance d'avoir une petite subvention de la mairie de Paris. Donc, on va organiser des petits déjeuners thé, café, croissant et accessibilité dans différentes mairies sur Paris, notamment pour le mois extraordinaire au mois de juin.
Ah bah ça oui, et alors ça c'est évidemment ça concernera plus particulièrement l'accueil, hein, l'accueil des personnes handicapées, c'est ça?
Oui, alors là ça va toucher à la fois les employés et à la fois les habitants aussi qui viendront à la mairie pour ce projet.
Justement les mairies pendant longtemps elles ont été critiquées parce que souvent elles étaient juchées, et je suis pas sûr qu'il ne faille parler qu'à l'imparfait encore aujourd'hui, elles étaient juchées sur de hauts perrons, elles étaient carrément inaccessibles. Là il y a eu des choses de fait, on avance, que ce soit à Paris, que ce soit en France en général, vous avez des nouvelles de ça, vous savez?
Oui, parce que nous, on est sur le terrain, hein, donc c'est aussi c'est les choses sur le terrain, les rencontres avec les gens qui nous donnent de nouvelles idées. Donc, on essaye réfléchir à ça.
Ça change, en fait, est-ce que vous avez un visage de la France qui vous fait dire qu'aujourd'hui, on a un petit peu fait évoluer la situation? Alors, un petit peu, j'en doute pas, mais pour moi, un petit peu, ça voudrait dire que, plus qu'un petit peu, qu'on sent que c'est tangible, qu'on voit quand même que ça avance.
Oui, bah j'espère qu'on essaie de faire avancer grâce à notre petite pierre à l'édifice. Voilà, on avance tous ensemble vers une ville accessible, parce que pour être citoyen à part entière, il faut pouvoir accéder à tout pour tout, donc c'est important. Oui.
Et alors après, ça sera effectivement, comme on disait, les commerces, les restaurants. Puis il y a des, alors il y a des choses de toute façon dont on sait bien, Laurent, hein, qu'elles resteront inaccessibles à jamais. Il faut le dire. Hein. Je veux dire, on envisage mal que tout le métro, par exemple, tout le réseau souterrain soit accessible à tous.
Oui, alors c'est vrai qu'en termes de transport, il y a un travail colossal à effectuer. Et puis, Au niveau de la voirie aussi, parce que pour accéder à un petit commerce, à une boulangerie, acheter sa baguette, ça passe aussi donc par les transports et par le cheminement.
Oui, pour y arriver. Enfin, pour, voilà. quand on vient même à pied ou quand on n'a pas de voiture, hein, en tous les cas,
ouais,
quand il s'agit pas de transport, simplement les trottoirs.
Voilà.
Là, c'est pareil. Il va falloir donner de la voix au niveau des hommes politiques.
C'est donner de la voix et puis ça prendra du temps parce que ça coûte énormément d'argent.
Ouais. Ah oui, alors ça c'est encore parce que là pour l'instant effectivement c'est bien de donner des conseils, mais si on vous dit au bout de la chaîne bah oui mais on fera ça plus tard parce que pour l'instant c'est pas possible, on peut pas le financer.
Voilà, il faut qu'il soit cohérent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les restaurants, les commerces se hâtent à se rendre accessibles, en tout cas pour la plupart. Maintenant, il faut qu'il y ait un travail de fait aussi, donc au niveau de la voirie, des transports.
Ça veut dire qu'il faut qu'on s'y mette tous, quoi.
Il faut qu'on s'y mette tous.
On sera pas trop, hein, autour de la table si un jour on veut discuter vraiment de l'accessibilité. Ça commence, on sent que ça frémit bien grâce à des personnes comme vous, Laurent, et comme vous, Stéphanie, que nous allons retrouver d'ailleurs après une pause musicale afin que vous continuiez et terminiez malheureusement de nous parler de l'association Action Handicap France sur Vivre FM.
La vie des associations jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Il ne nous reste que quelques minutes à passer en compagnie de l'association Action Handicap France, représentée par Laurent Monestier et Stéphanie Xeuxé. Stéphanie, je vous ai entendu, je vous ai vu même à un moment donné quand on a parlé politique. Je dis pas que vous avez eu le OK, mais vous avez eu... Ah, c'est le moment effectivement de peut-être d'en parler un petit peu plus de la politique.
La politique, oui, non, parce qu'on parlait de réseau et c'est vrai que c'est important aussi. À Action Handicap France, on a la chance d'être entouré d'un réseau d'une quinzaine de partenariats. Donc, on travaille notamment avec l'AFPAP, hein, qui sont les pros de l'accessibilité, où il y a des grandes entreprises comme EOGuidage, Axémétrie, Axol. Donc voilà, et ça permet d'avoir un pouvoir quand on se déplace et qu'on peut voir Madame Proscoletta.
C'est ça. Ça veut dire qu'effectivement, comme le disait tout à l'heure, si justement Laurent Monestier, l'union fait la force, je ne sais pas s'il l'a dit sur l'antenne, mais il l'a dit hors antenne et j'étais d'accord avec lui. Ça veut dire qu'à partir du moment où on représente de grosses entités, on a de la voix pour affirmer justement cette volonté, en l'occurrence chez vous, d'accessibilité, et on a le poids pour dire ben voilà, on peut faire, maintenant vous n'avez qu'à décider si vraiment on peut aller plus loin et qu'à nous aider.
Tout à fait. Et là, je vois, par exemple, nous, on a un catalogue de 58 pages avec une trentaine d'ateliers de sensibilisation et de formation. Donc, on a vraiment des très, très belles propositions. Mais c'est permis aussi par des partenariats comme avec Surdi France Bucodes, comme avec Cause, Atalant, le musée Louis Braille. Voilà, c'est de s'entourer aussi des professionnels et puis de travailler tous ensemble à essayer de changer les choses.
La première des compétences, c'est de savoir s'entourer de gens compétents et vous n'avez pas manqué de le faire. Donc, après les musées, qu'on fait, j'allais dire, vers quoi allez-vous? J'allais dire, jeter votre dévolu.
Bon, les musées, il y a encore un petit peu de marge, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment, je pense à des programmes en gros caractères, en braille. Ça, c'est, si vous voulez, des petites choses à faire dans les musées qui ne coûtent pas cher, parce qu'on parle souvent d'accessibilité et de gros moyens. C'est pas toujours le cas. Là, la prochaine étape, c'est le partenariat qu'on vient de signer avec Bureau Veritas, qui est quand même un pro de l'accessibilité et des diags et des conseils. Donc voilà. Donc, on espère pouvoir faire encore plus de formation et de sensibilisation comme ça, avec des mises en situation.
Non, bon, bah, finalement, l'association Action Handicap France a encore de beaux jours devant elle.
Exactement.
Hein, ça, on le sait. Laurent, vous, votre prochain chantier en ce moment, vous êtes sur quoi? Alors, vous, les musées, vous êtes concerné, par exemple, par les musées en ce moment ou pas?
Je suis concerné par les musées et tous les types d'établissements recevant du public. Ouais. Mais c'est vrai que ma cible, si je peux appeler ça comme ça, mes clients aujourd'hui, c'est tout ce qui est petit commerce, donc restaurants, hôtels, boulangeries, etc.
Ouais. Alors là, il y a fort à faire. Là, on sait que... Alors, justement, comment on décide? Parce que on fait quoi? On prend une carte de Paris? Comment on travaille pour aller persuader les uns les autres? Et qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les commerces de Paris, on va les voir un à un? Comment?
Bah, disons que si Bureau Veritas est passé par là, je n'y vais pas. Voilà, déjà.
Bon. Non, mais après, parce que ça veut dire que c'est,
on
ça veut
cible
dire
des que c'est quartiers, fait. On essaie de cibler des quartiers et puis de proposer nos services.
Juste, par exemple, si on ne parle que de Paris, il y a des quartiers qui sont plus en pointe. On pourrait penser, par exemple, que, je sais pas, du côté des arrondissements, je vais y arriver, qui sont plutôt riches, je sais pas, je parlais du 7e, du 8e, oui. Du 16e. On pourrait penser que là, il n'y a plus rien à faire et que tout est fait, ou c'est le contraire, ou comment?
Oui, clairement, on se rend compte que ce qui est mis en avant, enfin, en termes d'accessibilité, ou qui a été mis en œuvre, c'est dans toutes les régions où il y a un peu plus d'argent que dans d'autres. Ouais, clairement.
C'est clair que là, l'argent, ça, effectivement, hein, Stéphanie le disait tout à l'heure, c'est pas toujours une question de moyens, mais c'est quand même souvent une question de moyens. Et puis, il y a les volontés des uns des autres. Il y a aussi, j'imagine, des maires d'arrondissement qui sont plus, qui traînent plus facilement les pieds, quoi. Après tout, si on peut éviter.
Et c'est plus facile aussi quand les gens sont eux-mêmes sensibilisés, quand on a un enfant en situation de handicap ou quelqu'un de sa famille, de proche. On se rend compte que là, la tâche est beaucoup plus facile. On va sensibiliser. Nous, quand on va manger au restaurant avec Laurent, on sensibilise. Lui étant au fauteuil, voilà, et les questions viennent par elles-mêmes.
Il y a pas trop de difficultés. On sait encore. Hein, vous parliez de formation. Alors on est en plein dedans. Stéphanie, on sait par rapport au taxi, par exemple, que certains refusent encore les chiens d'aveugle, au prétexte que certains sont allergiques aux poils, que d'autres sont allergiques aux aveugles. Mais ça, ils le disent pas. Dans les restaurants, c'est pareil, c'est pas compliqué quand on est en fauteuil. Laurent, il y a plus d'une fois où vous êtes resté, j'allais dire, l'estomac dans les talons, pardon pour le jeu de mots.
Non, mais c'est vrai qu'alors moi j'ai peut-être moins de soucis qu'une personne qui est en fauteuil électrique.
Maintenant, parce c'est vrai. Parce que c'est moins encombrant.
Parce que non. C'est moins encombrant, parce qu'on a la possibilité de monter une marche isolée, des choses comme ça.
D'accord.
C'est vrai qu'une personne en fauteuil électrique, c'est ce que j'explique tous les jours aux commerçants. Moi, j'arriverai toujours à me débrouiller, grâce entre guillemets à la prothèse humaine, à pouvoir me faire porter. Après, il y a des limites. Une personne en fauteuil électrique, c'est un fauteuil qui pèse 100 kilos, et on a besoin effectivement d'une rampe.
Oui. Alors donc par conséquent, on peut pas là pour le coup, et c'est pas forcément, on va dire tout de suite, la faute du restaurateur. Il y a des restaurants qui ne pourraient pas ni supporter le coût, ni je sais pas par rapport à la configuration géographique du lieu, ne pourra installer une rampe.
Voilà, parce que il y aurait une disproportion, comme on dit, manifeste, une perte d'exploitation du restaurant, un restaurant qui a 5 ans de couvert. Si on commence à mettre des sanitaires handicapés un peu partout, ça prend quand même 3 mètres sur 5.
On a l'air d'être cynique comme ça, mais effectivement, tout compte. Alors justement, si on veut savoir tout ce que vous faites et si on veut faire en sorte de rendre accessibles les lieux qu'on fréquente, et si les commerçants, les restaurateurs et les autres souhaitent avoir contact avec vous, comment procède-t-il ?
Ma part, le site qui est accessible en langue des signes française au www.action-handicap.org.
Très bien.
Ou nous appeler au 07 61 24 39 80.
80. Très bien, merci Stéphanie Xoxet, merci Laurent Monestier d'être venu nous présenter les actions justement de Action Handicap France. Vous revenez quand vous voulez, et puis merci à Juliette, elle est devenue chanteuse, il paraît, elle est tout écoutée, et elle chantait pendant que nous on parlait sérieusement. Voilà, je dénonce.
À bientôt.
Merci.
Annelise, à bientôt vous deux.